le premier épître aux Corinthiens au chapitre 10. Et j'ai encore de partager quelque chose avec vous. Quelque chose qui est évidemment en rapport au repas du Seigneur, parce que c'est ce qu'on fait, hein? Ça fait déjà, je dirais peut-être même plusieurs années, là, qu'avant le repas du Seigneur, j'amène une petite étude, c'est plus court qu'à l'habitude, mais une réflexion, quelque chose sur le repas du Seigneur, mais aujourd'hui, ça s'appelle simplement le rappel de notre mission. On met l'emphase sur les missions, puis je veux faire un lien vraiment entre le repas du Seigneur, son institution dans l'Église, puis notre mission dans ce monde. Et on va juste lire ici dans le chapitre 10, on va lire les versets 15 à 17, simplement là, pour commencer. Donc on lit 1 Corinthiens 10, 15. « Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Et on sait évidemment, ça parle du repas du Seigneur et tout ça, puis on a une autre expression pour le repas du Seigneur. Ben, en fait, il y en a plus, on dit des fois la Sainte Cène, c'est rare qu'on dit ça, la Cène, ou la communion. Qui est un mot biblique, là, je veux dire, c'est référé à ça à certains endroits dans la Bible. Et c'est une communion avec le Seigneur, mais aussi les uns avec les autres, le repas du Seigneur. Mais moi, je veux vraiment souligner ici l'aspect communion du repas du Seigneur, parce que le but de la communion, quand on a le repas du Seigneur ensemble, c'est se rappeler de façon réelle et tangible qu'on a reçu le pardon des péchés par le sang de Christ et la vie par son sacrifice sur la croix. Il y a vraiment deux, tu sais, le sang, pardon des péchés, la vie, parce qu'on est mort avec Christ. Si on se rappelle son corps est allé sur le bois infâme, il a été maudit afin qu'on soit béni. Lui mort, nous qui sommes revenus à la vie. Et le sang de Jésus est le paiement pour tous nos péchés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça, ce n'est un autre fait qu'il faut juste qu'on accepte. Ce n'est pas une promesse à réclamer, c'est un fait à accepter. Le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Et la croix, elle, c'est là, je n'ai parlé un peu un matin, Jésus-Christ est mort à notre place afin que nous puissions vivre. Et nous sommes morts avec lui afin de vivre en lui. Vous savez qu'au moment où Christ est mort à la croix, comme on est mort en Adam, on n'était pas dans le jardin d'Éden, mais nous étions en lui, hein, dans Romains 5, 12. Mais de la même manière, en Jésus-Christ, on est mort avec lui, mort au péché, afin de naître de nouveau, de vivre en nouveauté de vie par sa résurrection. Et donc, ça, c'est les vérités que la parole nous enseigne sur notre union avec Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, on a vu ça dans Romains, rappelez-vous, c'est des choses qu'on doit connaître. C'est-à-dire, ignorez-vous donc hein, qu'on est baptisé dans la mort de Christ et qu'on est ressuscité lui pour marcher en nouveauté de vie. C'est pas des choses qu'on doit ignorer. Et ça, il y a quelque chose récemment là-dessus. Je vous invite à méditer là-dessus. Des fois, on passe vite à « Ah, oh, je dois le croire. » Attends un peu, est-ce que vraiment je le connais? Est-ce que je connais vraiment cette vérité? Puis, je vais juste prendre le temps de m'arrêter là-dessus. Des fois, on va vite, « OK, il faut que je le croie, mais est-ce que vraiment j'ai réalisé que je suis mort avec Christ, né de nouveau avec lui? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est solide dans mon cœur, qui est assis, qui est inébranlable? » C'est la première étape, parce qu'après ça, si on veut y ajouter foi, souvent, pourquoi on a de la misère à croire? C'est parce qu'on n'est pas solide dans la connaissance de ce fait. Puis c'est là souvent qu'on va tomber dans le piège de demander à Dieu quelque chose qu'on a déjà. Parce qu'on ne s'est pas arrêté sur le fait qu'on l'a. On l'a, c'est réglé. Et ces choses-là, c'est spirituellement qu'on les discerne. Le Seigneur l'écrit sur nos cœurs. Fait qu'en méditant là-dessus, en priant le Seigneur là-dessus, qu'il nous grave que ces choses-là, on doit les connaître, on doit les croire. Hein? On se voit, on se considère comme mort au péché, comme vivant pour Dieu. Puis après ça, évidemment, on va agir en conséquence. On va offrir nos membres à Dieu. Et on va vivre par la foi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Maintenant, tout ça étant dit, une autre petite chose en guise d'introduction, tout comme la mission d'incarnation de Jésus-Christ nous rappelle beaucoup, tu sais, je veux dire, avec le repas du Seigneur, on se rappelle du fait que Jésus est venu, ok, a versé son sang. C'est l'aboutissement de sa venue, hein, sa première venue, verser son sang, son corps est allé sur le bois infâme. Ben, de même, notre mission d'incarnation dans le monde, nous sommes le corps de Christ, nous, l'Église du Dieu vivant. Lorsqu'on célèbre le repas du Seigneur, on se rappelle cette mission d'incarner Christ, sa vie dans le monde. Et c'est intéressant que, vous savez, nous, ça fait depuis le début de l'Église qu'on fait ça. On parlait de ça tantôt avec les meubles antiques de l'Église. Nous avons des repas agapés. Hein, on a commencé dès le début, avant le repas du Seigneur. Et le Seigneur a dirigé comme ça dès le début. Puis, savez-vous quoi? C'est justement parce que c'est toute l'idée de la communion. On prend du temps ensemble, on se réjouit ensemble, puis ensuite, on continue cette réjouissance, cette célébration avec le repas du Seigneur. C'est un peu, si vous voulez, l'agapé, c'est comme notre introduction au repas du Seigneur. On mange ensemble pour après prendre les éléments du repas du Seigneur ensemble. Et la communion, le repas du Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous a donné pour garder à l'esprit, pour garder dans nos cœurs que nous sommes son corps dans le monde et nous sommes là pour accomplir sa mission. Et on va faire quelque chose d'intéressant. On est dans 1 Corinthiens, tournez dans 2 Corinthiens 2. On va faire vraiment un petit survol bien rapide et simple de vérité qui se retrouve dans 2 Corinthiens par rapport au fait que nous sommes le corps de Christ, mais pas n'importe comment, on a une mission. Et savez-vous quoi? On apprend dans le livre de 2 Corinthiens, un corps a des sens, n'est-ce pas? 5 sens. Savez-vous ça que Dieu touche, affecte le monde aussi dans les 5 sens comme étant un corps? Je viens de réaliser ça, je ne le savais pas. Je vais vous le partager, je vais voir, c'est bien simple le message, mais on va lire les passages et je vais vous expliquer à mesure simplement les vérités. On l'a lu ce matin, mais on a relu chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ici, on voit que Jésus, par son corps que nous sommes, stimule l'odorat du monde. Nous sommes son parfum. On est le parfum de Christ. Ça parle du sens de l'odorat. Ça nous parle de ce qu'on dégage, l'atmosphère spirituelle qu'on propage. Et n'est-ce pas ce que Dieu fait avec sa parole à travers nous? Hein? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On sait que pour certains, c'est une odeur de mort, d'autres, une odeur de vie. Donc, il y a toute cette idée-là que nous sommes le parfum de Christ, nous répandons l'odeur de Christ dans le monde. Et je dirais qu'à ce niveau-là, le pire pour un enfant de Dieu, pour une église, c'est de laisser le monde indifférent, d'avoir aucun effet. Ça veut dire qu'on n'a pas accompli notre mission. Ça veut dire quand ça sent quelque chose, ça sent bon, hein, ça sent bon. Quand ça sent mauvais, on a une autre réaction. Mais dans les deux cas, une odeur ne laisse pas les gens indifférents. On rentre dans une pièce, on fait du bacon, ça sent bon. On rentre dans une autre pièce, puis quelqu'un a fait un dépôt, ça sent pas aussi bon. Comprenez-vous que les odeurs ne laissent pas indifférents. Est-ce que ta vie, ta marche avec le Seigneur est un parfum distinctif dans ce monde? Pour les perdus, pour les frères et sœurs. Est-ce que tu es une odeur rafraîchissante pour les frères et les sœurs dans ta relation avec eux autres? Donc d'abord, Christ stimule l'odorat du monde. Chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Puis regardez aussi un peu dans le même sens, au chapitre 5, versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. On est comme une lettre qui est lue, on a la parole, Christ se fait entendre par nous. Oui, il a laissé sa parole écrite, mais nous proclamons la parole. Jésus-Christ se fait entendre au monde par nous, son corps. Et nous sommes une lettre qui est lue de tous. Nous sommes sa parole qui est adressée dans le bruit, la cacophonie de ce monde. Est-ce que tu es une lettre de bonne nouvelle pour les gens autour de toi? Est-ce que tu parles de réconciliation? C'est ça notre message. Ou peut-être qu'avec un zèle amer, un esprit de dispute, on brouille le message. Comme des ondes radio quand on capte pas bien le poste. Est-ce qu'on est reçu 5 sur 5 avec le message de la réconciliation que Dieu est venu et qu'il a envoyé en son Fils? Il est venu pour nous réconcilier avec lui. Les chrétiens sont ceux qui rapprochent de Dieu et des uns des autres. Parce qu'ils font entendre, ils font entendre un message d'espoir, de réconciliation. Ils étendent la main de la grâce de Dieu. C'est ça notre message. Et c'est simplement ça qu'on fait. La main de Dieu est étendue et nous, on le fait entendre au monde. Donc Dieu se fait entendre au monde par son Église. Troisièmement, chapitre 4, verset 3. Toujours dans 2 Corinthiens, là, c'est tout dans 2 Corinthiens. Verset 6, chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Jésus-Christ capte les regards du monde par la lumière qu'il a mis en nous. Ici, ça parle de lumière, hein, c'est... Nos yeux sont faits pour capter. C'est fascinant comment ça marche. Avez-vous déjà pensé à ça, là? On voit tout avec les contrastes puis les couleurs, puis c'est par un petit trou de rien qui arrive sur un... C'est fascinant, là. Je veux dire, on voit en couleur, puis on entend en stéréo. Je veux dire, Dieu nous a fait de façon extraordinaire. Puis ça, c'est tout avec la lumière. Et nous ne sommes pas la lumière. Nous portons cette lumière. Nous sommes la lumière du monde parce que Christ en nous est la lumière du monde. Et on peut dire que dans ce monde de ténèbres, nous représentons ce Dieu qui est la lumière au bout des ténèbres. Que beaucoup de personnes qui ont perdu espoir voient resplendir cet évangile de la gloire de Christ. Est-ce que la lumière de l'évangile brille de plein feu par Jésus-Christ qui vit en toi? Ou peut-être que tu attristes le Saint-Esprit en mettant le boisseau du moi? Toi te mettant de l'avant, attristant la vie de Christ qui est en toi. Vous savez, le monde, c'est pas nous qui avons besoin de voir. On n'a pas besoin de voir des super chrétiens. Ils ont besoin même de voir, c'est quoi? Des chrétiens faibles, mais qui ont un Dieu tout-puissant, bon, vrai. Ça encourage le monde parce qu'ils peuvent s'identifier à nous. On n'est pas mieux que personne, mais ils peuvent reconnaître notre Dieu qui est incroyable. Je pense que souvent, le monde a vu les chrétiens comme ils voulaient se montrer eux-mêmes, puis ils n'ont pas vu le Dieu des chrétiens. Parce qu'on a essayé d'être fort. Alors que si on est faible, puis que sa lumière brille en nous, c'est ça qui donne espoir aux gens. Parce qu'ils se rendent compte que Dieu peut faire de quoi? Même avec des gens comme eux autres, de la même nature qu'eux autres. Donc Dieu se fait voir au monde par nous. Ah, et regardez aussi le chapitre 4, verset 7, juste le verset suivant. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ça sert à quoi un vase? Un vase, ça porte toutes sortes de choses. On peut mettre de l'eau dedans, on peut mettre des différents breuvages. Je vois là-dedans l'image du fait que Jésus-Christ fait goûter sa bonté au monde. Un vase, son but, c'est de déverser. Dieu nous remplit pour qu'on déverse les grâces de sa bonté dans ce monde. Nous sommes des vases dans lesquels Dieu place les trésors de sa grâce pour que les gens goûtent que le Seigneur est bon. Connaissez le psaume 34, verset 9. « Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Dans un monde insipide et fade, C'est vraiment rafraîchissant d'avoir des gens comme ça. Et au niveau, on pourrait dire goûter même au niveau de la nourriture, parce que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Dieu veut simplement que nous incarnions ce qu'est la vraie saveur de la vie, la pleine saveur de la vie, pas les succès d'années, pas des remplaçants, le vrai, l'authentique, simplement que les gens aient un goût de cette saveur de la vraie vie qui est en Jésus-Christ, à travers nous qui sommes ses enfants. Jésus en nous est très riche en saveur. Il ne laisse pas les gens sur leur appétit. Et nous sommes là pour donner envie aux perdus et à ce monde tiède de goûter à la richesse de la bonté de notre Dieu. Et ça m'amène à terminer avec le dernier sens dans chapitre 4, versets 10 et 11. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ça parle de corps, de chair, le sens du toucher. Jésus touche le monde à travers nous parce que nous sommes son corps. Il se sert de nous comme étant pour atteindre, rejoindre, servir ce monde indifférent avec des gens comme nous pour réconforter, écouter, réchauffer dans un câlin. Vous savez, quand on fait un câlin, il ne faut pas juste réchauffer le corps, on réchauffe le cœur de la personne. Il y a un cantique que je connais. C'est qui chante ça? Donc, je pense que c'est l'église de M. Sexton. Je vais vous dire le titre original, je vais vous le traduire ensuite. « How can we reach a world we never touch? » Comment est-ce qu'on peut atteindre un monde qu'on ne touche jamais? C'est-à-dire, puis j'ai déjà raconté l'histoire de ce gars-là qui avait de la peine, ça, puis moi j'étais avec mes belles paroles, mais c'était pas le temps de parler. Mon ami, qui était même pas sauvé, a eu bien plus d'impact sur ce gars qui vivait un deuil juste en faisant une colle. Je suis sûr que 20 ans après, là, le gars se rappelle de la colle, puis il n'a aucune idée de ce que j'y ai dit. Mais il se rappelle de la colle, par exemple. Et on est appelé à ça, à toucher le monde. Pas de façon inappropriée, puis pas rapport, mais je veux dire, ça va loin des fois. Juste être là, proche, puis tu sais, le sens du toucher. Est-ce qu'on rentre en contact avec ceux qui sont auprès de nous autres pour leur donner un sens réel? Non seulement de la grâce de Dieu, mais de la proximité de Dieu. Que Dieu se soucie à travers le fait qu'il a placé quelqu'un dans un petit corps comme le nôtre pour montrer qu'il se soucie d'eux. C'est ça, toucher les gens, toucher par notre présence, notre proximité, on est là. Toucher la vie de quelqu'un par le message, la délivrance de l'Évangile, c'est le plus grand cadeau que Jésus-Christ veut faire à travers nous autres. Et ça m'amène à simplement conclure avec cette idée simple. On est au temps de l'année où est-ce que si on se rappelle, Jésus est devenu semblable à nous. En prenant une chair semblable à la nôtre, la Bible nous dit. Et il en est mort. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Afin que nous devenions semblables à lui dans sa résurrection. Qu'on puisse vivre. Et ça, ça a été manifesté. La grâce de Dieu. Ici, la grâce de Dieu, vous ferez votre étude, là, mais dans Tite 2.11, la grâce de Dieu, ce n'est pas juste une doctrine puis une vérité, c'est Jésus lui-même. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tu sais, des fois, on dit Jésus est le chemin, la vérité, la vie, puis il est aussi la grâce de Dieu. Il y a la manifestation de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a montré sa grâce en venant à nous. Et la bonne nouvelle de sa grâce à ce monde perdu, c'est ce qu'on célèbre dans le repas du Seigneur, la communion. Ça nous rappelle que nous sommes en mission dans ce monde. Et donc, c'est un beau moment. Évidemment, on se recentre sur le Seigneur. On s'approche les uns des autres, mais aussi ça nous fait porter les regards au-delà. Au-delà, notre Seigneur est venu en mission et nous sommes dans la continuation de cette mission. Amen. Amen. J'aimerais juste prier. et ensuite on va voir le repas du Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour ce temps qu'on a pu prendre avec ta parole, et merci que on voit que tu veux vraiment atteindre ce monde, le toucher, te répandre l'odeur de ta connaissance, te faire voir, te faire entendre à ce monde qui a tellement besoin, qui est dans le désespoir. Mais Seigneur, comme tu es venu il y a 2000 ans, tu continues d'être là à travers nous, ton peuple. Et alors qu'on se ramène à cet événement magnifique, grandiose de la croix, on se rappelle, comme même on l'a vu ce matin avec le pardon, que la mission de la croix continue toujours. La croix reste debout. Merci Seigneur pour ça. Sanctifie ce temps pour ta gloire. Merci pour chacun ici, on te prie au nom de Jésus. Amen.